أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين جن لوگوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی
Le calife Omar رضی اللہ عنہ faisait partie de ceux à qui le saint prophète Mohammed peace be upon him lui avait offert la bonne nouvelle du paradis. Abu Moussa رضی اللہ عنہ relate Le saint prophète Mohammed peace be upon him était dans un des vergers de Médine et j'étais avec lui. Une personne s'est présentée au portail de ce verger et a demandé qu'on lui ouvre le portail. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré « Ouvrez-lui la porte et donnez-lui la bonne nouvelle du paradis. » Abu Moussa radhiyallahu anhu déclare « Je lui ai ouvert la porte et j'ai constaté qu'il s'agissait d'Abu Bakr. Et je lui ai donné la bonne nouvelle offerte par le saint prophète Mohammed peace be upon him. » Alhamdulillah, a-t-il déclaré. Une autre personne s'est présentée et a demandé qu'on lui ouvre la porte. Le saint prophète Mohammed peace be upon him a déclaré « Ouvrez-lui le portail et donnez-lui la bonne nouvelle du paradis. » J'ai ouvert le portail et j'ai constaté qu'il s'agissait de Omar radhiyallahu anhu et je lui ai répété les paroles du saint prophète Mohammed peace be upon him. Et il a déclaré « Alhamdulillah ». Une troisième personne s'est présentée et a demandé qu'on lui ouvre le portail. Le saint prophète Mohammed peace be upon him a déclaré « Ouvrez-lui le portail et donnez-lui la bonne nouvelle du paradis. Donnez-lui cette bonne nouvelle en dépit du fait qu'un grand malheur va le frapper. » Le saint prophète a déclaré « Donnez-lui la bonne nouvelle du paradis et ce, en dépit d'un grand malheur qui va le frapper. » J'ai constaté qu'il choisissait le Othman. Je lui ai répété les propos du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et lui aussi a déclaré « Alhamdulillah ». Ensuite, il a déclaré « Seul Allah est digne d'être imploré pour se protéger des malheurs. » Abdurrahman bin Auf relate ceci. Le saint prophète Mohammed peace be upon him a déclaré « Abu Bakr méritera le paradis, Omar méritera le paradis ainsi que Othman. » Il avait dit cela à propos de 10 personnes. Il avait dit « Ali méritera le paradis ainsi que Talha, ainsi que Zubair. » Abdurrahman bin Auf méritera le paradis ainsi que Sa'ad bin Abi Waqqas. Et Zayd bin Zayd méritera lui aussi le paradis, ainsi que Abu Ubaida bin al-Jarrah. Abu Huraira, radhiyallahu anhu, déclare « Un jour, nous étions auprès du saint prophète Mohammed peace be upon him. Il a déclaré « J'étais endormi et je me suis vu au paradis. Et j'ai vu une femme en train de faire ses ablutions tout près d'un palais. » Je lui ai demandé à qui appartient ce palais. Les gens ont répondu à Omar bin al-Khattab. M'étant souvenu de son sens de l'honneur, je suis retourné. Omar, qui était présent, a pleuré en entendant cela Il a déclaré, « Ô envoyé d'Allah, vais-je me détourner de vous par fierté? Pourquoi étiez-vous retourné? Accordez-moi vos bénédictions. » Abu Saïd Khoudri relate ceci. Le saint prophète Mohammed lui a déclaré, « Un des illyines, c'est-à-dire celui qui jouit d'un haut rang spirituel, se tournera vers le paradis. La vue de son visage embrasera tout le paradis. » Il sera comme une étoile scintillante. Abu Bakr et Omar feraient partie d'eux. Et tous deux sont excellents. Abdullah bin Masoud déclare quant à lui, le saint prophète Mohammed a déclaré, un des habitants du paradis vient vers vous. Et Abu Bakr s'est présenté. Ensuite, il a déclaré, un des habitants du paradis vient vers vous. Et Omar radhiyallahu anhu s'est présenté. Dans un autre récit, Anas relate que le saint prophète Mohammed a déclaré à propos d'Abu Bakr et de Omar. Abu Bakr et Omar sont les chefs des aînés parmi les premiers et les derniers du paradis, sauf des prophètes et des envoyés. Abu Huraira radhiyallahu déclare que le saint prophète Mohammed a déclaré Omar bin Khattab est à la lampe du paradis. Voici d'autres récits rapportant les propos du saint prophète Mohammed sur le statut du calife Omar radhiyallahu anhu. Uqba bin Amir relate ceci. Le saint prophète Mohammed a déclaré s'il devait y avoir deux prophètes après moi, il s'agirait certainement de Omar bin Khattab. C'est-à-dire, il s'agit d'un prophète immédiatement après le saint prophète Mohammed, sinon le saint prophète, lui-même, a qualifié de Nabiullah, de prophète d'Allah, le Messie et le Mahdi qui devra apparaître à l'avenir. Le saint prophète Mohammed, a qualifié Omar, radhiyallahu anhu, de Muhaddath, c'est-à-dire de personne recevant des révélations. Aïcha raconte que le saint prophète, a dit il y avait certainement des muhadithines parmi les premières ummas, et s'il y a un muhadith dans ma umma, il s'agit de Omar bin al-Khattab. Abu Huraira rapporte que le saint prophète a déclaré « Il existait dans les ummas qui vous ont précédé des muhadithines. Et s'il existe dans ma umma une personne de cette catégorie, il s'agit de Omar bin al-Khattab. » Les muhadithoun sont ces personnes qui reçoivent nombre de révélations et de visions. Ensuite, le saint prophète a déclaré que Allah parlait à de nombreux hommes parmi les enfants d'Israël avant vous, même s'ils n'étaient pas des prophètes. S'il existe quelqu'un de cette catégorie au sein de cette umma, il s'agit en fait de Omar bin al-Khattab. Le Messie premier Islam déclare Allah utilise toujours des métaphores et il attribue le nom de l'un à l'autre eu égard à la nature de ces personnes en raison de leurs attributs et de leurs capacités similaires. Celui qui possède un cœur ressemblant à celui d'Abraham est Abraham aux yeux de Dieu, et celui qui possède un cœur similaire à celui d'Omar Farouk est Omar Farouk aux yeux de Dieu. N'avez-vous pas lu ce hadith dans lequel il est dit que s'il existe un muhadith au sein de cette umma, il s'agit de Omar? Ce hadith signifie-t-il que la muhadathia est terminée avec Omar? Certainement non. Au contraire, ce hadith signifie qu'une personne dont la condition spirituelle est conforme à la condition spirituelle de Omar, eh bien celui-là sera un muhadith en cas de besoin. Et le Messie premier Islam déclare « Moi-même j'ai reçu cette révélation » Fika madatun faruqiya. La révélation se lit ainsi Anta muhaddathullah, fika madatun faruqiya. Tu es le muhaddath d'Allah et tu possèdes les qualités de Farouk, c'est-à-dire du calife Omar radhiyallahu anhu. Tout comme je l'ai expliqué dans un précédent sermon, Omar radhiyallahu avait suggéré au calife Abu Bakr de préserver et de compiler le texte du Saint-Coran. J'en fais mention ici de nouveau. à l'époque d'Abu Bakr au cours de la bataille du Yamama, 70 Khufaf, qui avaient mémorisé le Saint-Coran, étaient tombés en martyr. Et Zayd bin Thabit Ansari relate à ce propos. Abu Bakr m'a fait appeler lorsque les gens du Yamama sont tombés en martyr. Et Omar radhiyallahu anhu était à ses côtés. Abu Bakr a déclaré, « Omar est venu me voir et il m'a informé que de nombreux musulmans sont tombés en martyr lors de la bataille du Yamama. Et j'ai peur que d'autres qaris, des personnes ayant mémorisé le Saint-Coran, ne tombent en martyr au cours d'autres batailles et ainsi une grande partie du Saint-Coran soit perdue, à moins que tu ne compiles l'ensemble des versets du Saint-Coran. » Et je pense qu'il faut le faire. C'était Omar qui avait suggéré cela au calife Abu Bakr. Abu Bakr a commenté que « Comment puis-je ordonner quelque chose qui n'a pas été ordonné par le saint prophète Mohammed bissos à lui ?» Omar a répondu « Par Dieu, il s'agit d'une noble tâche. » Et Omar m'a répété cela à maintes reprises, tant et si bien qu'Allah m'a convaincu qu'il fallait le faire. Et maintenant, je considère que l'opinion de Omar est pertinente, à savoir qu'il faut compiler le texte du Saint-Coran. Et Zayd bin Thabit a commencé à travailler sur la compilation du Saint-Coran. J'avais déjà mentionné les détails à ce propos dans le passé. Hazrat Muslim Maoud radhiyallahu anhu explique ceci à propos de la mémorisation du Saint-Coran par le calife Omar. Abu Ubaida déclare que ses compagnons muhajirin du Saint-Prophète Mohammed bissos à lui avaient mémorisé le Saint-Coran. Il y avait Abu Bakr, il y avait Omar, Othman, Ali, Talha, Saad bin Masoud, Hudhaifa, Salim Abu Huraira, Abdullah bin Sahib, Abdullah bin Omar et Abdullah bin Abbas. On dit également que certaines révélations reçues par le saint prophète Mohammed bissos à lui étaient en accord à l'opinion de Omar radhiyallahu anhu, ou qu'il était du même avis lorsque ces versets ont été révélés. Les Sir Sitta évoquent trois points de convergence entre les avis de Omar et ses versets. Si ces narrations du Sir Sitta sont étudiées dans leur ensemble, eh bien leur nombre passe à sept. Selon un hadith du Sahih al-Bukhari, Omar radhiyallahu anhu a déclaré « Mon opinion était conforme à la volonté de mon Seigneur sur trois points. » J'avais dit au prophète d'Allah, nous devons faire de la Maqam Ibrahim un lieu de prière. Par la suite, le verset suivant a été révélé, وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى Et j'ai parlé à propos du port du voile, et un commandement a été révélé à ce propos. J'ai dit, ô envoyé d'Allah, il vaut mieux que vous demandiez à vos épouses de porter le voile, car des gens respectables et des gens méchants en leur parlent. Suite à cela, le commandement sur le voile a été révélé. Une fois, les épouses du Saint-Prophète, bissos à lui, s'étaient unies sur une affaire le concernant pour une question d'honneur. Omar s'est adressé à ses épouses. Parmi elles se trouvait sa fille Hafsa. Il leur a dit, « Si le Saint-Prophète vous divorce, j'espère que Dieu lui accordera de meilleures épouses que vous. » Sur ce, le verset suivant lui a été révélé. « Asa rabbuhu in tolakakunna an yubdilahu azwajan khayram minkunna. » C'est-à-dire, s'il divorce d'avec vous, il se peut que son Seigneur lui accorde à votre place des épouses qui soient meilleures que vous. Selon un récit du Sahih Muslim, Ibn Omar relate que Omar bin al-Khattab a déclaré « À trois reprises, mon opinion était conforme à celui de mon Seigneur. » Concernant la Maqam Ibrahim sur le voile et sur les prisonniers de Badr. Mais le récit sur les prisonniers de Badr n'est pas authentique. Hazrat Muslim Maoud radhiyallahu a commenté à ce propos en détail, ainsi que Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib en présentant différentes preuves. Certains anciens savants et commentateurs ont prouvé que le récit sur la punition des prisonniers de Badr n'est pas correct. C'est un point que j'ai expliqué dans un précédent sermon. Le Sahih mentionne le fait que le refus du calife Omar radhiyallahu anhu de diriger les prières funéraires des hypocrites est en accord avec la révélation coranique. Ibn Omar radhiyallahu anhu relate, quand Abdullah bin Ubay bin Saloul est décédé, son fils Abdullah bin Abdillah s'est rendu auprès du saint prophète Mohammed P.S.A.W. Et il a demandé au saint prophète, paix soit sur lui, de bien vouloir lui remettre sa chemise afin de l'utiliser comme linceul pour son père. Le saint prophète, paix soit sur lui, lui a offert sa chemise et le fils d'Abdullah bin Ubay lui a demandé de diriger la prière funéraire de son père. Le saint prophète, paix soit sur lui, s'est rendu auprès de lui pour diriger sa prière funéraire. Omar a attrapé le vêtement du saint prophète Mohammed et il a déclaré, « Ô envoyé d'Allah, allez-vous diriger sa prière funéraire quand Allah vous l'a interdit ?» Le saint prophète Mohammed que Allah m'en a donné le choix en disant, Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Que tu demandes pardon pour eux ou que tu ne demandes pas pardon pour eux, même si tu demandais pardon 70 fois pour eux. Il a déclaré que je demanderai pardon plus de 70 fois pour lui. Omar a déclaré qu'il est un hypocrite, mais le saint prophète, paix soit sur lui, a offert sa prière funéraire. Par la suite, Allah a révélé ce verset. Et n'offre jamais la prière funéraire pour l'un d'entre eux, c'est-à-dire les hypocrites, et ne te tiens jamais sur leur tombe pour prier. Le Sunan at-Tirmidhi mentionne la révélation du Saint-Coran sur l'interdiction de l'alcool conformément à l'opinion du calife Omar radhiyallahu anhu. Omar bin Khattab avait prié, « Ô Allah, offre-nous une décision satisfaisante sur le vin. » Sur ce, le verset suivant de la sourate Al-Baqarah a été révélé, verset dans lequel il est dit, « Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir », c'est-à-dire qu'il t'interroge sur les intoxicants et les jeux de hasard. Dis-leur, tous deux comportent un grand péché en même temps que certains avantages pour les hommes, mais leur côté péché l'emporte sur les avantages. En entendant ce verset, Omar bin al-Khattab a déclaré, « Ô Allah, donne-nous un commandement clair sur l'alcool, sur le vin. » Sur ce verset de la sourate An-Nisa a été révélé, verset dans lequel il est dit « La taqrabu salata wa antum sukara » c'est-à-dire, vous qui croyez, n'approchez pas la prière quand vous êtes dans un état de confusion mentale jusqu'à ce que vous ayez pleine connaissance de ce que vous dites. Omar est revenu et on lui a présenté ce verset. Il a déclaré « Ô Allah, précise-nous le commandement sur le vin ». Sur ce verset de la sourate Al-Maïda a été révélé. Innama yuridu shaytanu an yuqi'a baynakum al-adawata wal-bardwa'a fil-khamri wal-maisiri wa yasuddakum an dhikrillah wa an is-salati fa hal antum muntahun. C'est-à-dire que Satan ne désire que créer de l'inimitié et de la haine parmi vous au moyen du vin et des jeux du hasard, et vous retenir ainsi du souvenir d'Allah et de la prière. Mais est-ce que vous allez vous en abstenir? On a cité ce verset à Omar, et lorsqu'on lui a cité ce verset, il a déclaré, « Nous allons nous en abstenir, nous allons nous en abstenir. » En sus de ces accords mentionnés dans la Sira Sitta, les biographes ont également mentionné plusieurs autres. Allama Suyuti a mentionné une vingtaine de ces concordances entre l'opinion de Omar et la révélation divine. Le Messie premier salam déclare, « Connaissez-vous le statut du calife Omar radhiyallahu anhu et à quel point il était grand parmi les compagnons ? Parfois, des versets du Saint-Coran étaient révélés selon son opinion. Et il y a un hadith qui dit que même Satan a peur de l'ombre de Omar. Le deuxième hadith est que s'il devait y avoir un prophète après moi, il s'agirait de Omar. Le troisième hadith est qu'il y a eu des muhadithines parmi les premières ummas. S'il y a un muhadith au sein de cette umma, il s'agit de Omar. Le calife Omar radhiyallahu anhu avait donné des conseils au saint prophète Mohammed P.S.A.W. lors de différentes expéditions et le saint prophète Mohammed P.S.A.W. avait accepté ses conseils. Le rapporteur du récit suivant doute si c'est Abu Huraira ou Abu Saïd qui aurait relaté ce qui suit. En tout cas, il déclare que le jour de la bataille de Tabouk, les gens étaient très affamés. Et ils ont dit au Saint-Prophète Mohammed de Sassoua lui, « Oh, envoyé d'Allah, si vous nous le permettez, nous allons abattre les chameaux que nous utilisons pour porter de l'eau et nous allons les manger et utiliser leur graisse. » Le Saint-Prophète a déclaré, « Vous pouvez le faire. » Sur ce, Omar s'est présenté au Saint-Prophète Mohammed paix soit sur lui. Il a déclaré au messager d'Allah, si on le fait, nous aurons moins de montures. Demandez aux gens d'amener le reste de leur provision. Demandez-leur d'apporter le reste de leur nourriture. Ensuite, priez pour qu'Allah bénisse cette nourriture. Il se peut qu'Allah les bénisse. Le Saint-Prophète Mohammed paix soit sur lui a déclaré, oui, c'est bien vrai. Le narrateur déclare que le Saint-Prophète Mohammed paix soit lui a demandé qu'on lui apporte un tapis de cuir. Il a étendu. Ensuite, il a demandé qu'on apporte le reste de la nourriture, le reste des provisions. Le narrateur déclare qu'un tel a apporté une poignée de maïs, un autre une poignée de dattes, un autre un morceau de pain. En fin de compte, on a tout entassé sur ce tapis. Le Saint-Prophète Mohammed paix soit lui déclare que le Saint-Prophète Mohammed paix soit lui a prié pour qu'Allah bénisse cette nourriture. Ensuite, il a dit, prenez-en dans vos récipients. Les gens en ont pris de leurs récipients et les récipients de tous les soldats étaient remplis. Ensuite, tous ont mangé à satiété et il restait encore de la nourriture. Sur ce, le Saint-Prophète Mohammed paix soit lui a déclaré que j'atteste que personne n'est digne d'adoration excepté Allah et que je suis le messager d'Allah. Et on n'interdira pas le paradis à celui qui rencontrera son Seigneur sans douter de ces deux témoignages. Il s'agit d'un récit tiré du Sahih Muslim. Selon le récit d'Al-Bukhari, Yazid bin Abu Ubaid déclare que Salama bin Uqba a déclaré que lors d'un voyage, les provisions commençaient à diminuer tant et si bien qu'il n'y avait presque rien à manger. Et on a demandé au Saint-Prophète Mohammed paix soit sur lui la permission d'abattre les chameaux. Le Saint-Prophète paix soit sur lui leur a donné cette permission. Ensuite, Omar les a rencontrés et ils ont informé Omar à ce propos. Sur ce, Omar a déclaré, « Comment allez-vous survivre lorsque vous allez tuer vos chameaux ?» Sur ce, Omar s'est présenté au Saint-Prophète Mohammed paix soit sur lui et il a déclaré, comment est-ce qu'ils vont survivre après avoir abattu leur chameau? Le messager d'Allah a déclaré que « Demandez à tout le monde d'apporter le reste de la provision. » Ensuite, le Saint-Prophète Mohammed paix soit lui a prié et a béni cette provision. Ensuite, il a demandé qu'ils apportent leur récipient. Les gens en ont pris en abondance et quand ils avaient terminé, le Saint-Prophète Mohammed paix soit lui a déclaré « Que je témoigne qu'il n'y a pas d'autre divinité à part Allah et je témoigne que je suis le messager d'Allah. » Le calife Omar avait également fait un rêve sur l'appel à la prière. Hazrat Muslim Aoud radhiyallahu anhu déclare à ce propos. À l'époque du Saint-Prophète Mohammed paix soit sur lui, certains compagnons recevaient des révélations. À l'époque, il y avait un compagnon qui se nommait Abdullah bin Zayd. Allah lui avait enseigné l'adhan à travers un rêve. Et le Saint-Prophète Mohammed paix soit lui s'était appuyé sur sa révélation ou ce rêve pour introduire l'adhan parmi les musulmans. Une révélation coranique ultérieure l'a également confirmée. Omar déclare, « Dieu m'avait enseigné le même appel, ou adhan, mais je suis resté silencieux pendant 20 jours en me disant qu'une autre personne avait relaté cela au Saint-Prophète Mohammed paix soit sur lui. » Selon un autre récit, Omar radhiyallahu anhu avait déclaré qu'un ange lui avait enseigné l'appel à la prière. « Et je n'étais pas endormi lorsqu'il l'a fait, » a dit Omar. « J'étais dans un état entre le sommeil et l'éveil. » Il y a aussi un récit du Sunan Tirmidhi que j'ai cité dans le passé et que je vais relater de nouveau ici. Les paroles de la fin démontrent l'importance du rêve de Omar aux yeux du Saint-Prophète Mohammed paix soit sur lui. Mohammed bin Abdullah bin Zayd relate ceci de son père. Un matin, nous sommes rendus auprès du Saint-Prophète Mohammed paix soit lui et je lui ai relaté mon rêve. Le Saint-Prophète Mohammed paix soit lui a déclaré ce rêve est certainement vrai. Pars et accompagne Bilal, il possède une voix plus forte que la tienne. Répète-lui ce qu'on t'a enseigné dans le rêve afin qu'il en fasse l'annonce. Abdullah bin Zayd déclare que lorsque Omar bin al-Khattab a entendu la voix de Bilal invitant à la prière. Omar s'est rendu auprès du Saint-Prophète Mohammed paix soit sur lui, entraînant son châle. Et il lui a dit,
Ô messager d'Allah, je jure au nom de celui qui vous a envoyé avec la vérité. J'avais vu en songe les mêmes paroles de cet appel. Le rapporteur déclare que le saint prophète Mohammed P.S.A. lui avait répondu : toutes les louanges appartiennent à Allah. Toutes les louanges appartiennent à Allah. Cette parole a été renforcée davantage, c'est-à-dire qu'il a reçu une autre confirmation à propos de ce rêve. Comment Omar radhiyallahu anhu respectait-il et traitait-il le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Et quel était le statut du saint prophète aux yeux de Omar radhiyallahu anhu? Ibn Omar relate qu'il était en voyage avec le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il était monté sur un chameau de son père, c'est-à-dire de Omar radhiyallahu anhu, un chameau qui était bruyant et qui dépassait la monture du saint prophète Mohammed P.S.A. Omar, le père de Ibn Omar, lui disait : « Ô Abdullah, personne ne doit dépasser le saint prophète Mohammed P.S.A. lui. » C'est-à-dire que ta monture ne doit pas dépasser celle du saint prophète Mohammed P.S.A. lui. Le saint prophète Mohammed P.S.A. lui a dit à Omar : « Vends-moi cette monture. » Omar a déclaré : « C'est le vôtre. » Le saint prophète l'a acheté. Et il a dit : « Abdullah, ce chameau t'appartient, tu peux faire ce que tu souhaites avec. » Il a ensuite offert ce chameau en cadeau. Anas bin Malik raconte : « Le saint prophète Mohammed P.S.A. lui est venu quand le soleil s'est incliné, il a offert la prière de Dhuhr. Il s'est tenu sur la chair et il a mentionné l'heure déterminée. Il a déclaré : « Il y aura de grands événements. » Ensuite, il a déclaré que celui qui souhaite poser ses questions pourra le faire. « Posez-moi toutes vos questions et je vais vous répondre tant que je serai présent en cet endroit. » Les gens ont beaucoup pleuré et le saint prophète Mohammed P.S.A. lui a répété à maintes reprises « Posez-moi vos questions. » Sur ce, Abdullah bin Hudhafa Sahmi a demandé « Qui est mon père ?» et le saint prophète a répondu « Hudhafa. » Ensuite, le saint prophète a répété à maintes reprises « Posez-moi vos questions. » Puis Omar s'est mis à genoux. Il a déclaré « Nous sommes satisfaits qu'Allah est notre Seigneur, que l'Islam est notre religion et que Mohammed est notre prophète. » Le saint prophète Mohammed P.S.A. lui est devenu silencieux. Il a déclaré : « Le paradis et l'enfer m'ont été présentés dans la largeur de ce mur, et je n'ai jamais vu un tel bien et un tel mal. » Selon un autre récit d'Al-Bukhari, Abu Moussa a déclaré : « On a interrogé le saint prophète Mohammed P.S.A. lui sur certaines choses qu'il n'aimait pas. Et quand on lui posait trop de questions, eh bien, il s'est mis en colère et il a dit à l'assistance : « Demandez-moi ce que vous voulez. » Quelqu'un a demandé : « Qui est mon père ? » Le saint prophète a répondu : « Ton père est Huzaifa. » Puis un autre s'est levé et a demandé : « Ô messager d'Allah, qui est mon père ? » Le saint prophète Mohammed P.S.A. lui a répondu que ton père c'est Salim, l'esclave affranchi de Shaiba. Lorsque Omar a vu le changement qui était sur son visage, il a déclaré : « Ô messager d'Allah, nous nous tournons vers Allah pour l'erreur que nous avons commise. » Selon un autre récit d'Al-Bukhari, Zuhri relate que Anas bin Malik a déclaré : « Le saint prophète Mohammed P.S.A. lui était sorti. Abu Huzaifa a demandé : « Qui est mon père ? » Le saint prophète a répondu : « Ton père, c'est Huzaifa. » Ensuite, le saint prophète Mohammed sallam, a dit à maintes reprises : « Posez-moi vos questions. » Omar s'est mis à genoux et a déclaré : « Nous sommes satisfaits qu'Allah est notre Seigneur et que l'Islam est notre religion et que Mohammed sallam, est notre prophète. » Suite à cela, le saint prophète Mohammed P.S.A. lui s'est tué. Abu Qatada Ansari rapporte que le saint prophète Mohammed P.S.A. lui a été interrogé sur son jeûne. Le rapporteur déclare que le saint prophète s'est mis en colère et Omar a déclaré : « Nous sommes satisfaits qu'Allah est notre Seigneur et que l'Islam est notre religion et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager et que notre allégeance est véritable. Selon un autre récit du Sahih al-Bukhari, Omar radhiyallahu anhu a rendu visite une fois au saint prophète Mohammed peace soit sur lui. Le saint prophète logeait dans une pièce à l'étage. Omar raconte, « Je suis parti vers le Saint-Prophète et j'ai constaté qu'il était allongé sur une natte et il n'avait aucune couverture entre lui et la natte et la natte avait marqué son dos. Il était appuyé sur un oreiller en cuir rempli d'écorce de palmier. J'ai regardé dans la pièce du Saint-Prophète Mohammed, peace be upon lui, et je n'ai vu que trois peaux brutes. » J'ai dit au Saint-Prophète Mohammed, peace be upon lui, « Implorez Allah afin qu'il offre de la prospérité à votre Oumma, parce que la Perse et Rome ont reçu beaucoup de richesses et ils ont reçu le monde tandis qu'ils n'adorent pas Allah. » Le Saint-Prophète, peace be upon lui, était allongé sur l'oreiller. Il a déclaré, « Fils de Khattab, as-tu encore des doutes ?» Ce sont des gens qui ont reçu rapidement les choses dont ils jouissaient en cette vie de ce monde. Omar a déclaré, « Ô messager d'Allah, priez pour qu'Allah me pardonne. » Le Messie premier des salam déclare, « Une fois, Omar radhiyallahu anhu s'est rendu chez le Saint-Prophète Mohammed peace be upon lui. Il a constaté qu'il n'y avait aucun objet chez le Saint-Prophète. Il était allongé sur une natte dont les marques étaient sur son dos. » En voyant cela, Omar a commencé à pleurer. Le Saint-Prophète, peace be upon lui, a demandé, « Oh Omar, pourquoi pleures-tu ?» Omar a répondu, « En raison de votre souffrance. » Il a dit que César et Cosroès, qui sont des infidèles, mènent une vie confortable et vous vivez dans ces conditions difficiles. Le Saint-Prophète, Mohammed, peace be upon lui, a déclaré, « Qu'ai-je à faire avec ce monde? Mon exemple est celui d'un cavalier chevauchant un chameau dans la chaleur de la journée. Quand la chaleur de l'après-midi lui fait souffrir, il s'arrête à l'ombre d'un arbre pour reprendre son souffle, puis après quelques minutes, il reprend son voyage dans la même chaleur. » À une occasion, le Saint-Prophète Mohammed peace be upon lui avait demandé à Omar de prier pour lui. Omar radhiyallahu anhu déclare, j'ai demandé au Saint-Prophète peace be upon lui la permission d'accomplir la Umrah. Il m'a donné la permission en disant, mon frère, ne nous oublie pas dans tes prières. Omar radhiyallahu anhu a déclaré, ces paroles sont telles que si j'obtiens le monde entier en retour, je ne serai pas aussi heureux. Selon un autre récit, le saint prophète Mohammed peace be upon lui aurait déclaré, ô mon frère, inclus-nous dans tes prières. L'on peut connaître l'affection que nourrissait Omar radhiyallahu anhu à l'égard du saint prophète Mohammed peace be upon lui grâce à l'incident suivant. J'en ai fait mention dans un sermon précédent. Aïcha radhiyallahu anha relate que lorsque l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est décédé, en entendant cette nouvelle, Omar radhiyallahu anhu s'est levé et il a déclaré, « Par Allah, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas mort. » Et Omar avait l'habitude de dire, « Par Dieu, c'est ce qui m'est passé par l'esprit. Je me suis dit que Dieu va le ressusciter afin de trancher les mains et les pieds de certaines personnes. Cependant, quand Abu Bakr est venu, il a récité le verset 145 de la sourate Al Imran et a demandé à Omar de comprendre la réalité et puis l'affaire a pris fin. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu dit à ce propos que le consensus des compagnons sur la mort du saint prophète Mohammed peace be upon lui et que tous les prophètes sont décédés. Cela était dû au fait qu'après la mort du saint prophète Mohammed peace be upon lui, Omar radhiyallahu anhu croyait qu'il était encore en vie et qu'il allait revenir. Et il y croyait tellement qu'il était prêt à trancher le cou de celui qui était d'un avis contraire. Mais Abu Bakr as-Siddiq, le véridique, s'est présenté et il a récité le verset suivant devant tous les compagnons. Le verset qui disait « Wa ma Muhammadun illa rasul, kad khalat min kablihi rusul » Omar radhiyallahu anhu a déclaré que mes pieds ont tremblé et je suis tombé par terre sous le choc. Les compagnons disaient par la suite, nous avions l'impression que ce verset avait été révélé aujourd'hui et nous le récitions dans les rues ce jour-là. Si un prophète était vivant, L'argument ne serait pas valable que si tous les prophètes mourraient, pourquoi le saint prophète, paix soit sur lui, ne va-t-il pas mourir? Omar aurait pu déclarer, pourquoi trompez-vous les gens? Jésus est toujours vivant au ciel. S'il est vivant, pourquoi le saint prophète, paix soit sur lui, ne peut-il pas être vivant? Mais le silence de tous les compagnons démontre que leur croyance unanime était que Jésus-Christ était mort. Le Messie premier l'Islam a aussi commenté à ce sujet. J'ai présenté ses explications dans un sermon précédent. Comment Omar avait-il l'habitude de suivre le saint prophète Mohammed, puis ce lui, Ibn Omar déclare à ce propos que l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, s'est tourné vers la pierre noire et il a placé dessus ses lèvres et il a pleuré pendant longtemps. Quand il s'est retourné, il a constaté que Omar ibn Khattab était en train de pleurer lui aussi. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, lui a dit « Oh Omar, c'est le lieu où les larmes coulent. » Arbis relate que Omar ibn Khattab s'est approché de la pierre noire et l'a embrassé, et il a déclaré « Je sais très bien que tu n'es qu'une pierre, qui peut ni nuire ni bénéficier. Si je n'avais pas vu le saint prophète, paix soit sur lui, t'embrasser, je ne t'aurais pas embrassé. » Hazrat Muslim Maud, radhiyallahu anhu, déclare que Omar effectuait le tawaf de la Kaaba lorsqu'il est passé tout près de la pierre noire et il l'a frappé avec son bâton et il a déclaré « Je sais que tu es une pierre et que tu n'as aucune puissance en toi. Je t'embrasse suite au commandement de Dieu. Ceci est l'esprit de l'unicité qu'il a exalté dans le monde. » Omar était un amoureux parfait du monothéisme et il ne pouvait pas tolérer le fait d'associer quiconque à la puissance de Dieu. Il respectait la pierre noire parce que Dieu a demandé de respecter cette pierre noire et non pas en raison de quelque pouvoir de la pierre noire. Il se disait que si Dieu nous commandait d'embrasser la chose la plus insignifiante, nous sommes prêts à le faire parce que nous sommes les serviteurs de Dieu le Tout-Puissant et non parce que nous sommes les serviteurs d'une pierre ou d'une maison. Ainsi, il faisait preuve de respect sans porter atteinte au monothéisme. Ceci est la position d'un vrai croyant. Un vrai croyant considère la maison de Dieu comme une maison de pierre, tout comme des milliers d'autres maisons. Un véritable croyant considère la pierre noire comme une pierre, à l'instar des millions d'autres pierres dans le monde. Mais il vénère aussi la maison de Dieu et il embrasse aussi la pierre noire parce qu'il sait que son Seigneur lui a recommandé de respecter ses objets. En dépit du fait qu'il respecte cette maison, même s'il embrasse la pierre noire, il est fermement convaincu que je suis le serviteur du Dieu unique et pas le serviteur d'aucune pierre. C'est là la réalité démontrée par Omar radhiyallahu anhu. Il a frappé la pierre noire et il a déclaré « Je ne t'accorde aucune importance, tu n'es qu'une pierre comme des millions d'autres pierres dans le monde, mais mon Seigneur m'a demandé de te respecter et c'est pour cette raison que je le fais. » En disant cela, il s'est avancé et il a embrassé la pierre noire. Abdullah bin Omar raconte que Omar bin Khattab a demandé au saint prophète Mohammed paix soit sur lui quand il était à Girana après son retour de Taïf. Ô envoyé d'Allah, à l'époque de l'ignorance, j'avais fait un vœu d'accomplir l'itikaf pendant un jour dans l'enceinte de la mosquée sacrée. Quelles sont vos directives à ce propos? Le saint prophète paix soit sur lui a déclaré « Pars et accomplis l'itikaf pendant un jour ». En tout cas, on peut respecter à tout moment le vœu légitime que l'on a fait. Ceci est la leçon qu'a donnée le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Le rapporteur déclare, une fois le saint prophète lui a offert une fille du Khums. Quand le saint prophète, paix soit sur lui, a libéré les autres esclaves ou prisonniers, eh bien, ces prisonniers l'annonçaient partout. Et Omar les a entendus. Il a demandé « Qu'est-ce qui se passe ?» Et ses prisonniers ont dit que le saint prophète les avait libérés. Sur ce, Omar a dit à son fils « Oh Abdullah, libère cette fille que le saint prophète, puis ce soit lui, nous a offert. » Huzaifa était considéré comme le confident du saint prophète Mohammed, puis ce soit lui. Il y a eu un incident lors de la bataille de Tabouk. Huzaifa relate « Lorsque le saint prophète est descendu de sa monture, il a reçu une révélation. Sa monture était assise, elle s'est mise debout et elle tirait ses rênes. J'ai agrippé ses rênes et je l'ai placé tout près du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Ensuite, je me suis assis à côté de la chamelle jusqu'à ce que le saint prophète, paix soit sur lui, se lève et je lui ai apporté la chamelle. Le saint prophète a demandé qui est-ce. J'ai répondu Huzaifa. Le saint prophète m'a dit : je vais t'informer d'un secret que tu ne dois mentionner à personne. Il m'est interdit d'offrir les prières funéraires de telle ou telle personne. Et le saint prophète Mohammed bin Sassoua lui a mentionné le nom d'un groupe d'hypocrites. Après la mort du messager d'Allah, au cours de son califat, si Omar pensait qu'un tel qui était décédé appartient à ce groupe d'hypocrites, eh bien, il tenait la main de Huzaifa et l'emmenait avec lui pour offrir les prières funéraires. Si Huzaifa l'accompagnait, Omar offrait la prière funéraire de cette personne. Si Huzaifa enlevait sa main de celle de Omar, eh bien, Omar n'accomplissait pas les prières funéraires de cet individu. Le Messie premier al-Islam explique comment Omar radhiyallahu anhu accomplit les prophéties du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Il déclare à ce propos que Omar était empli de sincérité et de fidélité. Il est devenu le deuxième calife après le saint prophète. Ainsi, de cette manière, chacun des compagnons ont été honorés. Les richesses et les joyaux de César et de Khosrès sont tombés entre ses mains. Un compagnon s'est rendu dans la cour de Khosrès et ses domestiques ont étalé ses chaises d'or, ses merveilles et lui ont montré sa splendeur. Ce compagnon a déclaré : nous ne sommes pas fascinés par cette richesse. On nous a promis que nous obtiendrons également les bracelets de Khosrès. Omar a demandé à un compagnon de porter ses bracelets afin d'accomplir cette prophétie. Hazrat Muslim Aoud, radhiyallahu anhu, déclare : il n'est pas permis aux hommes de porter de l'or, mais Khalif Omar a demandé à un compagnon de porter les bracelets d'or de Khosrès et lorsqu'il a refusé de le faire, Omar l'a réprimandé. Il a déclaré : le saint prophète t'avait dit qu'il t'avait vu porter les bracelets en or de Khosrès. De même, à une occasion, on a reçu les butins de guerre qui comprenaient la couronne de Khosrès et ses vêtements de soie. Et Omar a ordonné à un homme de les porter. Quand il les a portés, eh bien, Omar a pleuré. Il a déclaré : quelques jours de cela, Khosrès portait cette robe et cette couronne et il régnait tel un tyran en Perse. Aujourd'hui, ce même Khosrès est aux abois. Telle est la situation du monde. Et cet acte de Omar ne peut pas sembler juste, car il est interdit aux hommes de porter de la soie et de l'or. Mais pour expliquer un point important et pour fournir un conseil, Omar a demandé à un homme de porter cet or et cette soie pendant quelques minutes. La chose essentielle, c'est la taqwa. Tous ces commandements sont là pour créer la taqwa d'Allah. Si l'on doit abandonner quelque chose qui semble être de l'adoration, pour atteindre la taqwa, eh bien cet acte sera source de récompense. Abdullah bin Omar rapporte que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a déclaré : on m'a montré dans un rêve que j'étais debout tout près d'un puits et j'étais en train de puiser de l'eau d'un seau placé sur une roue. Ensuite, Abu Bakr est venu et il a tiré un ou deux seaux d'eau et il était très faible en les tirant. Allah couvrira sa faiblesse et Allah lui pardonnera. Ensuite, Omar bin Khattab est venu et ce seau s'est transformé en un grand seau. Et je n'ai vu aucune force aussi incroyable que celle de Omar bin Khattab. Il tirait tellement d'eau que les gens furent satisfaits et les gens sont retournés chez eux. Ibn Omar dit : j'ai entendu l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire : une fois, pendant que je dormais, on m'a apporté un récipient contenant du lait. Et j'en ai tellement bu que du lait sortait de mes ongles. Ensuite, j'ai offert le lait restant à Omar bin Khattab. Les compagnons ont demandé au envoyé d'Allah : quelle est l'interprétation de ce rêve ? Il a répondu : il s'agit de la connaissance. Zainul Abidin Walul Shah déclare à propos de ce hadith : Fadul ilm ne signifie pas ici l'excellence de la connaissance, mais la partie restante du savoir. Il existe un chapitre séparé sur l'excellence du savoir. Le rêve du saint prophète, paix soit sur lui, et son interprétation, ainsi que les événements qui confirment ce rêve, sont destinés à soutenir que les conquêtes et la grandeur du monde accordées aux musulmans par l'entremise de Omar sont un vestige du savoir du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Connaissance qu'il a reçue du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Dans le Saint-Coran, en raison de son statut, le Saint-Prophète, paix soit sur lui, a été appelé Majmul Bahrain, la jonction des deux mers, car il possédait la connaissance pour atteindre le succès à la fois en ce monde et dans l'au-delà. L'imam Bukhari a compté la politique dans le domaine du savoir et a indiqué que le Saint-Prophète a apporté la droiture parfaite qui prévaut sur les bonnes œuvres de l'homme ici-bas et dans l'au-delà. Tout comme le Christ avait prédit à son sujet que lorsque cet esprit de vérité viendra, il apportera la vérité parfaite. Jean chapitre 16, verset 12. En étudiant les événements de la vie du calife Omar, l'on peut connaître la réalité de ce reste du lait qu'il a bu grâce à la générosité du Saint-Prophète Mohammed, peace soit sur lui. Hazrat Muslim Maoud, radiallahu anhu, déclare, une fois Omar, radiallahu anhu, a mentionné au Saint-Prophète Mohammed, peace soit sur lui, avoir pris un récipient contenant du lait dans un rêve. L'envoyé d'Allah a déclaré, il s'agit de la connaissance. Abu Sayyid Khudri déclare, j'ai entendu le Saint-Prophète déclarer, je dormais. J'ai vu les gens se présenter devant moi et ils portaient des chemises. Pour certains, les vêtements étaient à la hauteur de la poitrine, tandis que les vêtements d'autres tombaient légèrement plus bas. Omar s'est présenté à moi et son vêtement traînait derrière lui. Les compagnons ont demandé l'interprétation de ce rêve et le Saint-Prophète Mohammed Pessoa lui a déclaré que cela signifiait la foi. En évoquant les qualités de divers compagnons, le Saint-Prophète Mohammed Pessoa lui a déclaré: au sein de ma Ummah, le plus fort dans la foi d'Allah, c'est Omar. Malik bin Irwal rapporte que Omar bin Khattab a déclaré: accomplissez votre analyse avant qu'on ne vous demande des comptes, cela sera plus facile pour vous. Ou il a déclaré que cette évaluation sera beaucoup plus facile pour vous à faire. Il a dit: évaluez votre intérieur de peur qu'on ne le fasse pour vous et préparez-vous pour le grand jour des comptes. Ce jour-là, vous serez présenté devant votre Seigneur et aucun de vos secrets ne restera caché. Chaque fois que Hassan évoquait le calife Omar, radhiallahu anhu, il disait: par Dieu, bien qu'il n'était pas parmi les premiers à embrasser l'islam, ni parmi ceux qui dépensaient le plus dans le chemin de Dieu, il n'avait aucun désir pour les choses de ce monde et il était le plus strict dans l'application des instructions d'Allah parmi les gens. Et il n'a jamais craint le reproche d'un chercheur de faute. Saad bin Abi Waqqas déclare: par Dieu, bien que Omar bin Khattab n'était pas parmi les premiers des nôtres à embrasser l'islam, je sais cependant en quoi il nous a excellé. C'est dans la piété et dans le détachement des choses de ce monde. Hisham bin Urwa raconte de sa mère que lorsque Omar bin Khattab s'est rendu en Syrie, son vêtement supérieur était déchiré du dos. C'était un vêtement assez épais et long qui atteignait le sol. Ce type de vêtement était couramment porté à Rome. Omar bin Khattab a envoyé ce vêtement au peuple d'Azriyat ou de Hila. Hila est une ville située sur la côte de la mer Rouge. Et cette ville est juxte la Syrie. En tout cas, le narrateur déclare qu'il a lavé ce vêtement, il l'a rapiécé, et il a également préparé un nouveau vêtement, un vêtement fait de tissu fin blanc en coton. Il a pris ces deux vêtements et il les a présentés au calife Omar radhiyallahu anhu. Omar a tenu le vêtement de coton et il l'a senti, a déclaré qu'il était trop doux. Et il l'a rendu à l'individu, a déclaré: rendez-moi mon vêtement d'origine, parce que de parmi tous les vêtements, c'est celui qui absorbe le plus la sueur. En d'autres termes, le vêtement déchiré qu'il avait rapiécé était meilleur. Anas bin Malik raconte qu'il a vu Omar bin Khattab à une époque où il était le chef des fidèles et son vêtement avait trois pièces de cuir cousues entre les épaules. Selon un autre récit, Anas déclare qu'il avait quatre pièces de cuir cousues sur le vêtement de Omar près de la zone des épaules. Je mentionnerai d'autres récits sur la vie du calife Omar à l'avenir, Inch'Allah. Je vais maintenant mentionner un membre de la communauté qui est décédé récemment et je vais aussi accomplir sa prière funéraire après la prière du vendredi, Inch'Allah. Le docteur Tassir Mujtaba Saheb était un médecin à l'hôpital Fazli Umar et il est décédé quelques jours de cela à l'âge de 70 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Bien qu'il souffrait de diverses maladies, il est soudainement tombé malade et son état s'est détérioré et il est décédé suite à cette maladie. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. L'Ahmadiyya a été introduit dans la famille du défunt par le cousin de son père, Sayyid Fakhrul Islam Saheb, qui était un compagnon du Messie premier d'Islam. Cependant, le père du docteur Tassir Mujtaba, Ghulam Mujtaba Saheb, a accepté l'Ahmadiyya en 1938, lorsqu'il était encore étudiant. Lorsque le troisième calife a invité les gens à consacrer leur vie suite au programme de Nusrat Jahan, le docteur Ghulam Mujtaba Saheb, le père du défunt, travaillait comme chirurgien à l'hôpital civil à Karachi. Il a pris sa retraite à cette date, il a dédié sa vie et il a voyagé en Afrique en 1970 et il y a servi jusqu'en 1999, notamment au Ghana, au Nigeria et en Sierra Leone. Le docteur Tassir Mujtaba a terminé ses études en médecine et ensuite il a travaillé pendant 2 ans dans l'armée. Ensuite, il a travaillé dans un hôpital civil de Karachi. Ensuite, il a servi pendant quelques temps à l'hôpital Jinnah de Karachi. En 1982, il s'est dédié pour 3 ans et il a été affecté au Ghana. Il a servi dans un hôpital à Techiman et ensuite il a servi à Asokore dans un hôpital qui a été fondé par son père. Il a travaillé avec son père pendant 3 ans et son père l'a formé en chirurgie parce que son père était aussi un très bon chirurgien. Le docteur Tassir Saheb a servi au Ghana pendant environ 23 ans. Ensuite, il a servi pendant 17 ans à l'hôpital Fazli Umar de Rabwa. Ainsi, au total, il a servi pendant 40 ans. Il était marié à Amtul Raouf Saheba, la fille de Sayyid Daoud Musafar Shah Saheb et de Sahibzadi Amtul Hakim Saheba, qui était la fille de Hazrat Muslim Maud Aradiotaranhu. Le défunt médecin avait un fils et une fille. Son épouse Amtul Raouf Saheba déclare: lorsque je suis parti lui rendre visite pendant ses jours de maladie, il m'a demandé de transmettre ses salams ou ses salutations au calife. Ainsi donc, il m'a envoyé ses salutations. Cependant, dit son épouse, cette fois-ci, il avait dit d'une telle manière qu'il semblait être ses dernières salutations. Elle déclare en outre: une fois au Ghana, le défunt était tombé gravement malade et il a passé la nuit dans une grande douleur et son état était très grave. Pour la prière de Fajr, il avait dit que quelqu'un avait présenté ses salams, ses salutations. Il m'a demandé d'aller voir qui c'était. Je lui ai dit que la porte était fermée et que personne ne pouvait entrer. Au bout d'une heure, il m'a dit de nouveau qu'il avait entendu une voix disant le salam. Et par la suite, par la grâce d'Allah, sa santé a commencé à s'améliorer et il s'est rétabli. Son épouse déclare: j'ai également prié pour lui et on m'a dit qu'il aura une longue vie. Mon mari était très humble, il était altruiste, il était très gentil et il n'a jamais dit de mal de personne et il n'a jamais fait de médisance et il ne s'était jamais plaint de personne. Et si quelqu'un d'autre le faisait, il demeurait silencieux. Son frère déclare que nous avons constaté que même après les heures de travail, il s'occupait des patients. Il disait que, étant donné que les autres médecins voient moins de patients, je ne souhaite pas que les patients qui viennent à l'hôpital reviennent sans avoir été examinés ou soignés. Donc, je prends le fardeau des autres médecins, a-t-il déclaré. Le défunt était très vertueux et il parlait très peu. Le personnel de sécurité et les employés de l'hôpital ont déclaré qu'il passait toujours à côté d'eux avec le sourire et il leur demandait comment ils se portaient. Il faisait preuve d'une grande gentillesse à l'égard de ses patients et en particulier envers les Ahmadis. Et si quelqu'un venait le voir après les heures d'ouverture, il les examinait souvent sans demander d'honoraires. Le directeur de la Jamia Ahmadiyya de Rabwa, M. Mubashir, déclare « J'ai eu l'occasion de m'asseoir avec lui à maintes reprises. Il parlait très peu et il parlait de manière très douce. Il était très gentil, aimant et il était très humble. » Il déclare que « Je n'ai jamais vu personne faire preuve d'une aussi grande humilité, d'une aussi grande modestie et d'une si grande simplicité. J'ai entendu de tels récits à son sujet de la part des malades de l'hôpital ainsi que de la part des personnes démunies, des récits qui me laissent tout admiratif et je suis très content de savoir qu'il y ait pareils médecins qui sont en train de servir dans nos hôpitaux. » Le directeur de la Jamia présente un autre point et c'est quelque chose que j'ai également mentionné plus tôt. Il déclare que le défunt médecin examinait les patients même après les heures d'ouverture et parfois il quittait son bureau à la fin des heures d'ouverture. Et quand un patient se présentait, il l'emmenait dans son bureau comme s'il attendait ce patient depuis des heures. Il était très gentil envers les pauvres. Atar Zubair, président de Humanity First de l'Allemagne, écrit que lorsque le calife était en tournée en Afrique en 2004, le défunt Dr Mujtaba l'avait accompagné au Ghana et dans d'autres pays, dont le Bénin. Atar Zubair déclare qu'à une occasion, le défunt médecin a vu une dame qui semblait être très anxieuse. Il m'a demandé de lui demander ce qui n'allait pas. Et la dame a déclaré que je suis venu rencontrer le calife et j'ai dépensé tout ce que j'avais. Maintenant, je n'ai plus rien pour le voyage retour. Sur quoi, le défunt lui a offert 30 000 francs CFA. Il déclare à cette époque que cela représentait presque un mois de salaire pour une personne moyenne. Et le défunt a offert immédiatement cette somme. M. Hanif Mahmoud déclare que le défunt était très modéré et très humble. Il a montré beaucoup d'amour et d'affection à l'égard des Waqfi Zindagi. Hanif Mahmoud déclare qu'une fois sa femme était malade et c'était le défunt qui l'avait soigné. En fait, ils étaient partis le rencontrer pour lui demander conseil et non dans l'intention de se faire traiter. Le défunt a demandé s'ils avaient apporté le document du patient et il n'en avait pas. Sur ce, le défunt a appelé un de ses employés. Il lui a donné 100 roupies de sa poche et lui a demandé de prendre les dispositions nécessaires pour préparer le document du patient. Et il n'a pas pris d'argent de ces personnes malgré le fait qu'ils ont insisté pour le faire. Il possédait un visage très innocent et il semblait être un ange personnifié. Il parlait très peu. Il entrait discrètement dans la mosquée Moubarak et il faisait de longues prières. Le docteur Muzaffar Chaudhry, qui est urologue et qui réside ici au Royaume-Uni, se rend souvent à Rabwa pour le Waqfe Arzi. Il écrit à propos du défunt. Le défunt avait un tempérament très calme. Il était très gentil et compatissant. Il avait une grande passion pour apprendre de nouvelles choses afin de pouvoir aider les autres. À chaque fois que je partais pour le Waqfe Arzi, je lui rendais visite dans son bureau. Et il me faisait m'asseoir sur son siège et s'asseyait de l'autre côté, même si j'insistais pour qu'il reste à sa place. Lokman Saheb, Wakilul Mal Awwal du Tahrik Jadid, écrit ceci. Le défunt possédait de nombreuses qualités et il avait une grande passion pour les sacrifices financiers. Depuis qu'il est retourné au Pakistan, il se rendait personnellement au bureau du Daftar Mal Awwal et payait sa contribution du Tahrik Jadid dès que le nouvel an du Tahrik Jadid était annoncé. Bien qu'il était médecin de profession, il avait comme objectif de servir l'humanité. Outre le traitement allopathique, il traitait également ses patients par le biais de traitements homéopathiques. Il ne rejetait aucune forme de traitement. Le docteur Naïm Saeb, qui est responsable de l'hôpital d'Asokore, écrit ceci. Le défunt a servi comme médecin missionnaire pendant 21 ans à Asokore.
Aujourd'hui, en apprenant son décès, de nombreuses personnes de la région qui le connaissaient étaient très tristes et ils ont présenté leurs condoléances. Il disait que le défunt médecin avait un caractère très simple, il parlait très peu et il était toujours occupé par son travail. Il s'occupait des pauvres et il était très hospitalier. En sus de sa connaissance des affaires de ce monde, le défunt avait une grande passion pour la littérature de la Jamaat et les livres du Messie premier alayhi salam. Il déclare qu'il ne fait aucun doute que le défunt médecin a rendu un excellent service dans le domaine de la chirurgie dans l'hôpital d'Asokore. Et nous en voyons les fruits aujourd'hui encore dans la forme de patients qui viennent de divers pays de l'Afrique de l'Ouest pour se faire soigner. Et il évoque le nom Mujtaba dans leur langue africaine toute simple. Le défunt se nommait Tassid Mujtaba, mais il était connu sous le nom du docteur Mujtaba là-bas en Afrique. Le père du défunt avait servi dans cet hôpital pendant quelques années et le défunt docteur Tassid Mujtaba était connu par le même nom. Le défunt médecin avait également construit une très belle mosquée dans l'enceinte de l'hôpital. Le défunt a fait preuve d'un très grand altruisme et il a grandement servi l'humanité et il a utilisé sa profession pour servir l'humanité. J'ai personnellement constaté une qualité chez lui et chez son père. En sus de traiter leurs patients, il fournissait également des médicaments gratuitement à leurs patients pauvres et il leur fournissait également de l'argent pour acheter des provisions et de la nourriture. Il achetait aussi des œufs et du lait et avait cela avec eux et en offrait à leurs patients. Et disait à leurs patients que cela était également essentiel pour soulager leur maladie. Il offrait donc des médicaments gratuitement ainsi que des provisions. Et il disait à leurs patients d'en utiliser pour qu'ils puissent se rétablir. Le docteur Ghulam Mujtaba a rendu de grands services au Ghana et son fils Tassid Mujtaba a développé ce service davantage. Je connais personnellement de nombreux Ghanéens qui le félicitaient pour ses services. Il possédait un véritable esprit de Waqf et il s'est bien occupé des Waqf Zindagi. Chaque fois qu'il se rendait chez lui, il prenait grand soin d'eux et il les invitait chez lui. Le quatrième calife avait logé chez lui lorsqu'il était en tournée en Afrique. Monsieur Hanif a aussi dit qu'il était comme un ange. En effet, il était un ange personnifié. Qu'Allah lui accorde sa miséricorde et qu'Allah élève son rang. En ce qui concerne son hospitalité, je voudrais aussi mentionner qu'un homme ne peut être hospitalier que lorsque sa femme fait preuve de la même qualité à la maison. Son épouse était également imbue d'un très grand sens de l'hospitalité et son épouse a aussi grandement servi les autres. Priez pour qu'Allah accorde une longue vie à son épouse ainsi qu'une bonne santé et qu'Allah permette également à ses enfants de continuer ses bonnes œuvres et que ses enfants puissent aussi servir leur mère.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.